Pour être tout à fait franc avec vous, j'ai volontairement pas préparé cette session de ce soir parce que je veux qu'on soit dans l'échange. Mais également, j'aimerais vous dire avant d'aller plus loin que c'est la dernière soirée de formation. On a voulu cette année faire un truc un peu différent des autres années, avec quelque chose de moins structuré volontairement, et aussi on a essayé de faire quelque chose qui ressemble un peu plus à la typologie de la ville qu'on avait ici. Je pense que vous n'avez pas beaucoup de rencontrés de musulmans durant cette semaine, je me trompe. Quelques-uns, mais pas tant que ça finalement, si. Vous en avez rencontré quand même ou pas? J'ai pas vu beaucoup de questions sortir sur les musulmans le soir. Vous pouvez en poser. Ce soir, c'est la dernière série de questions. Donc profitez-en au maximum. N'hésitez pas à poser vos questions à haute voix parce que vos questions sont peut-être des questions qui peuvent bénéficier à d'autres au niveau de la réponse. Donc allez-y franchement, posez vos questions. Ce soir, c'est le dernier délai pour le faire. D'accord? Également, demain, on va se préparer à la conférence. Je vous rappelle que vous pouvez inviter vos amis. C'est un sujet qui touche tout le monde. Ça va être très simple. Le message, c'est création, chute, Christ. C, les trois C. Donc, ça va pas être très compliqué. Invitez vos amis. Le message de l'évangile sera flashé clairement, je vous le promets. Ce soir, on va parler d'Oikos et on va prendre un premier texte qui se trouve dans Acte 16. Acte chapitre 16. Et on va lire quelques versets de la conversion du geôlier de Philippe. Et ensuite, on va parler ensemble de, finalement, c'est quoi l'évangélisation, c'est quoi le témoignage, le cœur même du témoignage, qu'est-ce qui remplit nos églises, et comment les gens viennent-ils à la foi. D'accord? Acte 16, verset 25. Paul et Silas, qui étaient partis à Philippe, qui avait été enfermé dans la prison, et le verset 25 nous dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un grand tremblement de terre, si violent que les fondations de la prison furent ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée prête à se tuer car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul a crié d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal car nous sommes tous ici. » Alors le gardien a demandé de la lumière, il est entré précipitamment. Il s'est jeté tout tremblant aux pieds de Paul et Silas, il les a fait sortir et il leur a dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas ont répondu « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. » Et ils lui ont annoncé la bonne parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Et à cette heure-là de nuit, le gardien les a emmenés pour laver leurs plaies. Il a immédiatement été baptisé, lui et tous les siens. Après les avoir conduits chez lui, il leur a servi à manger et il se réjouissait avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille, toi et tout ton oikos. Le terme oikos tel qu'il est utilisé ici revient régulièrement dans le livre des Actes. Il signifie littéralement maison. Si on voulait traduire littéralement comme le fait Darby, ce serait crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Alors pour ceux qui ont déjà assisté à un groupe T40, notamment la session numéro 1, la toute première session, on s'arrête un peu sur le concept d'oikos et on met en évidence que l'oikos, ça ne se limite pas à la famille immédiate et aux très proches, mais ça va beaucoup plus loin. Est-ce que quelqu'un se souvient de l'exemple biblique qu'on donne pour montrer que l'oikos, c'est pas seulement la famille immédiate, comme c'était probablement le cas ici avec le geôlier de Philippe? Oui, Michael. Oui, vas-y, pourquoi? C'est très probable. En fait, quand vous regardez qui était Lydie, son métier c'était quoi? Elle vendait du pourpre, elle était dans l'industrie, visiblement elle était sa propre patronne. Généralement, quand vous aviez un oikos mentionné, vous aviez généralement soit le couple qui était mentionné, comme par exemple Priscille et Aquilas, où vous aviez souvent le nom de l'homme, par exemple le geôlier et toute sa famille, Stéphanas et toute sa famille, Crispus et toute sa famille, etc., etc. Mais là, vous avez Lydie qui est mentionnée et tout son oikos. La plupart des commentateurs pensent qu'elle était veuve ou qu'elle n'était pas mariée et qu'étant dans l'industrie, son oikos n'était pas forcément composé que d'enfants, mais aussi de serviteurs ou de proches qui travaillaient avec elle, puisqu'elle était dans l'industrie du pourpre. Donc l'oikos ne se limite pas à votre foyer. Qu'est-ce qu'on met dans notre oikos? Qu'est-ce que vous avez dans votre oikos? Allez, je vous écoute. Vos collègues, ouais. Camarades de classe. Vos voisins. Le boulanger. Votre famille. Les amis, votre chien, votre chat, votre poisson rouge, mais encore, toutes les personnes que vous côtoyez sur une base régulière. Cet oikos-là, c'est en quelque sorte votre sphère d'influence. À votre avis, en moyenne, votre oikos, il se limite à combien de personnes? Votre oikos immédiat, les gens que vous voyez tous les jours ou très régulièrement. Ouais. Une trentaine, une cinquantaine de personnes, 100 ça paraît compliqué, 50 même 50 ça paraît beaucoup. Hein. Le nombre d'interactions avec les personnes que vous avez autour de vous est extrêmement réduit à moins de 15 personnes généralement. Le nombre d'interactions régulières que vous avez avec des personnes autour de vous est généralement réduit à moins de 15 personnes. Alors après vous avez le boulot et tout le reste, vous y passez beaucoup de temps, mais si vous regardez l'interaction sur des bases quotidiennes régulières, souvent ça se limite à votre famille, à des gens très proches, à des tâches que vous faites quotidiennement, et souvent ça se limite à moins de 15 personnes. Quand on fait T40, on fait un petit exercice. Qui peut me citer l'exercice qu'on fait? Premier exercice sur notre oikos.
Classifier les personnes
qu'on connaît. Ouais.
Et après, on...
Vas-y.
Et après, on va mettre un
peu plus. Ouais.
Et si on a un but, et bien ça qui a
pas tout en fait, en fait, on commence par lister toutes les personnes, en fait, on liste les personnes qui ne sont pas sauvées. Alors, le principe de base, quand vous regardez dans votre oikos ce qui est sauvé, qui n'est pas sauvé, c'est très simple. Soit vous avez un doute, et dans ce cas, il n'y a plus de doute. Soit vous n'avez aucun doute. Soit vous considérez les gens comme sauvés, soit vous les considérez comme perdus. Si vous avez un doute sur ces personnes, considérez-les comme perdus. Ça ne leur fera pas de mal d'entendre les manger d'une nouvelle fois. Vous ne les blesserez pas, vous ne leur ferez pas de mal. Donc considérez ces personnes-là sous deux catégories de personnes. Et considérez, je vous encourage vivement à considérer le monde autour de vous sous deux catégories de personnes. Les sauvés et les perdus. Si vous avez un doute sur quelqu'un, considérez-le comme perdu. Un exemple probant, c'est que quand ils ont commencé T40 au Texas, aux États-Unis, ils ont commencé à donner ce genre d'informations aux gens qui étaient autour d'eux, en leur disant, sélectionnez votre oikos. Sélectionnez les gens qui sont perdus dans votre oikos. Ils se retrouvaient avec des oikos qui faisaient zéro. Pourquoi? Parce qu'au Texas, tout le monde est baptiste. Alors, ils leur ont dit, sélectionnez des gens qui sont un peu en froid avec Dieu depuis quelque temps. Et là, ils se retrouvaient avec des oikos de malades. Parce que finalement, tout le monde est baptiste, c'est un joli vernis qui vous recouvre, mais derrière, peu ont une vraie relation vivante avec Dieu. Je vous rappelle que, au cas où vous ne saviez pas, que c'est pas être baptiste qui sauve, c'est bien d'être baptiste, mais ça ne sauve pas. Je suis baptiste, mais je suis pas sauvé parce que je suis baptiste. C'est parce que je suis sauvé que je suis devenu baptiste. C'est différent. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que méfiez-vous du vernis. Je parle en particulier à ceux qui ont grandi dans une église ou ceux qui ont dans leur famille des chrétiens depuis tout petit. Faites gaffe. Parfois, on se laisse abuser par le vernis. On a pris ce qu'on appelle le patois de Canaan et on finit par prendre pour acquis des choses qui ne le sont pas. C'est pas le vernis qui vous sauvera au jour du jugement. Le feu consumera toute chose. Mais à un moment donné, c'est la vraie vie spirituelle entre vous et Dieu. Donc moi, je vous encourage vraiment à considérer les gens en deux catégories. Les sauvés et les perdus. S'il y a un doute, il n'y a plus de doute. D'accord? La grande question par rapport à votre oikos, finalement, c'est qui dois-je amener au Seigneur? Ce que je suis en train de vous dire, c'est que quand Dieu nous demande d'être ses témoins, la première sphère dans laquelle il nous appelle, c'est la sphère de notre oikos. Prenez avec moi acte 1, verset 8. Dans acte 1, verset 8, il y a une dimension qui est littérale, et que Raph a bien fait de soulever ce matin une dimension qui est géographique. Il a tout à fait raison de le dire, cette dimension géographique est proprement impressionnante puisqu'elle a, en fait, c'est le plan du livre des Actes. C'est ce que Raph a démontré ce matin. Le plan du livre des Actes, c'est en gros Jérusalem, Judée, Samarie, extrémité de la terre. C'est aussi l'inversement de l'étau générationnel. C'est ce qu'on voit le jeudi soir pour ceux qui viennent à la théologie de l'Alliance. Vous savez que, en fait, Dieu resserre les générations jusqu'à faire sortir la lignée du Messie. À Babel, il sauve l'humanité, il disperse l'humanité, pardon, sur la face de la terre, il garde une seule lignée, celle de Sem, on parle de la bénédiction de Sem va sortir Abraham, d'Abraham va sortir Avant Jacob. Abraham, Isaac, Jisac. Ensuite, la lignée, elle continue par qui? Judas, après Judas. Et après David? Le fils de David, Isaïe. Ok, oui, Salomon. Shlomo. Mais si vous regardez bien, il y a un phénomène d'étau. Les généalogies se resserrent jusqu'à Christ. Donc, si vous regardez bien le schéma, ça vous fait humanité entière dispersée, Abraham, Israël, Judas, Jérusalem avec David, Christ. Et Christ vous dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, Israël, en Judée, bien sûr, en Samarie, Israël, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc en fait, en Jésus-Christ, vous avez l'inversement de la malédiction qui arrivait à Babel, et il vient bénir les extrémités de la terre par son pouvoir, le pouvoir de sa rédemption. En Christ, Dieu change le mal en bien. La malédiction de Babel se retrouve à être utilisée comme un moyen de glorifier Dieu jusque dans l'éternité, chacun dans sa propre langue. Est-ce que c'est pas extraordinaire ces choses-là? Maintenant, dans Actes 1, verset 8, vous avez une dimension qui est aussi une dimension sociologique. Une dimension sociologique. On va lire Actes 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'est-ce que ça voulait dire être témoin à Jérusalem pour les auditeurs de Jésus qui étaient probablement des gens d'origine majoritairement de Jérusalem, même si certains venaient de Galilée? Ça voulait dire atteindre mes voisins. Ça voulait dire atteindre mes proches. Ça voulait dire atteindre les gens que je voyais tous les jours. Ensuite, il leur dit, vous serez mes témoins en Judée. Ça voulait dire aller évangéliser mes contemporains. Et là déjà, vous avez un premier petit problème. Par exemple, si vous êtes français et que vous devez évangéliser les Français, admettons que vous êtes un Français parisien et que vous devez évangéliser les Marseillais, tout de suite, vous avez une dimension de différence qui peut vous séparer. Par exemple, le football. Je ne considère pas qu'un supporter du PSG, non, je plaisante. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que déjà, dans un même pays, il peut y avoir des disparités ou des divisions qui peuvent rendre la chose difficile. Pour les Juifs, ensuite, les Samaritains, c'était qui? C'était des ennemis. Il est en train de leur dire, vous serez mes témoins auprès de vos... Est-ce que c'est surprenant, cela? À votre avis, est-ce que Christ est mort pour nous parce que nous étions ses amis? Oui? Oui ou non? Argument biblique? Romains 5, combien? Romains 5, 6? Par cœur, s'il vous plaît, monsieur? Car lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À peine mourrait-on pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, non, c'est pas ce verset-là qu'on cherche, c'est ah. Car lorsque nous étions encore ennemis, Christ est mort pour nous. Verset 5, je crois, tu vérifieras, mais bon, peu importe. Donc nous étions ennemis de Christ quand il est mort pour nous. Par conséquent, nous sommes disciples de celui qui a donné sa vie pour ses ennemis. Nous sommes disciples, nous marchons à la suite, nous imitons celui qui a donné sa vie pour ses ennemis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'implication et de ce que ça veut dire. Ça veut dire que concrètement, si vous marchez à la ressemblance de Christ, vous marchez à la ressemblance de celui qui a donné sa vie pour ses ennemis. Verset 10, merci Anna, tu as l'esprit de Nicolas Blocher en toi. Romains 5, 10. Normalement c'est Nicolas Blocher qui fait tout le temps ces remarques-là. Ok, donc dans Romains 5, 10, vous avez cette dimension de Christ qui meurt pour ses ennemis. C'est encore un impact sociologique que vous voyez là. Aller même évangéliser pour les Juifs, ça voudrait dire par exemple, les Juifs de 1945, aller évangéliser des Allemands. Dites-vous que ça a été fait par des Juifs chrétiens. Dites-vous que c'est ce que des chrétiens ont fait dans les camps de concentration. Dites-vous que c'est ce que Dapozzo a fait. Dites-vous que c'est ce que Corrie ten Boom a fait. Vous avez des chrétiens qui ont donné leur vie pour leurs ennemis, pour les amener au Seigneur. Et enfin, les extrémités de la terre, toutes les nations qui viennent des extrémités de la terre et que Dieu nous ramène dans sa grâce jusqu'à nous et qui sont partis de ces peuples non atteints, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais le premier levier missionnaire, le premier levier auquel vous êtes appelé, que vous êtes appelé à utiliser, pardon, c'est le levier de votre entourage immédiat. C'est celui de vos oikos. Maintenant, je ne suis pas venu avec des statistiques, mais vous savez tous très bien que nos églises se remplissent de gens qui se convertissent prioritairement par le moyen des relations. Majoritairement, les gens se convertissent, non pas sur un contact en one-shot dans la rue, ça arrive, mais ce n'est pas la majorité des cas. Les trois quarts du temps, c'est en voyant vivre les chrétiens, en étant en relation avec eux, en voyant comme ils s'aiment, en voyant comme ils souffrent, en voyant comme ils vivent, en voyant un mode de vie différent que les gens se convertissent. Martin Lloyd-Jones a dit que l'Église a ceci de surprenant de ce qu'en étant absolument différente du monde, invariablement elle l'attire. C'est comme cela que les gens qui voient vivre les chrétiens viennent le plus souvent au Seigneur. Il y a quelque chose qui les frappe dans votre manière de vivre. Non pas que vous soyez des gens extraordinaires, vous êtes tous des quiches, mais en fait, en réalité, Dieu a mis un sceau sur vous qui fait que vous ne pouvez plus vivre de la même manière que celle que vous viviez avant. Vous avez une relation différente au monde, vous avez une relation différente au péché, et c'est ce qui montre aux gens qui vous entourent que vous êtes des chrétiens. Donc c'est par les relations premièrement que les choses se font. Et ce que je vais vous dire ce soir, c'est que ça commence toujours par votre oikos. Maintenant, vous êtes tous venus ici pour une semaine d'évangélisation, lors de laquelle vous avez pris votre courage à deux mains. Vous êtes sortis dans la rue et vous avez parlé à tous les gens que vous rencontriez. C'est formidable, c'est extrêmement courageux de votre part. Dieu vous a équipé de ce Saint-Esprit qui n'est pas un esprit de timidité pour cette tâche. Mais est-ce que vous pensez que le plus dur est de faire ce que vous devez faire pendant une semaine ou d'aller parler à vos collègues, à vos voisins, à vos amis et à votre famille qui n'est pas chrétienne? Dis-moi, explique-toi. Bah explique. Bah ça dépend pour qui, si tu veux dire quoi par là. C'est vrai. Vas-y Priscille. Pourquoi? Par exemple. Moi, ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que vous seriez enclin à exprimer un kérigme? Vous vous souvenez ce que le mot kérigme veut dire avec Raphaël? Est-ce que vous seriez enclin à proclamer un kérigme, à donner un message qui soit aussi radical auprès de vos proches que celui que vous donnez dans la rue aux gens que vous rencontrez? Ouais. Quelqu'un? Ok. Petite question. Qu'est-ce que vous mettriez dans le kérigme, dans le message que vous devez impérativement annoncer à quelqu'un, les choses qui ne peuvent pas ne pas être annoncées quand vous donnez l'évangile à quelqu'un, quel qu'il soit? Allez, on y va. Première chose. Dieu vous aime. Dieu vous a créé. Ok, bon. Vous êtes pécheur, conviction de péché, la loi, ce que va faire Alex tout à l'heure, mais encore. Christ est mort, ouais. Il est ressuscité, vous devez parler de résurrection, la repentance. Bref, des éléments fondamentaux du kérigme, dans lequel vous retrouvez la mort de Christ et sa résurrection. Est-ce que vous pouvez tous dire que dans votre oikos, des gens qui sont autour de vous, qui sont proches, que vous côtoyez régulièrement, voire tous les jours, ont tous entendu parler de la résurrection des morts? Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je suis en train de vous dire, c'est que si on a du mal à parler de résurrection des morts, parce que c'est un truc de fou la résurrection des morts, vous imaginez dans notre culture à nous, la résurrection des morts. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Si on a du mal à le dire, c'est parce que ça nous engage. Comme Callaghan disait, quand vous commencez à aborder des sujets comme cela avec vos collègues qui sont cadres, ou maîtrises, ou appelez, ou ce que vous voulez, et que vous leur expliquez que vous croyez à la résurrection des morts, généralement, ils vont avoir tendance soit à vous prendre pour un dingue, soit à se dire « Waouh, super intéressant ce message. » C'est oui ou c'est non, c'est blanc ou c'est noir avec un message comme ça. Ça vous engage. Mais c'est absolument essentiel. La grande question, que je, là où je voudrais vous amener simplement à réfléchir, c'est pourquoi on a tant de mal à témoigner à ceux qui nous entourent du message de l'évangile, même si on le fait d'une manière moins cash. Moi, je suis prêt à accepter que dans la rue, on doit aller vite. Parfois, on rencontre des personnes et on a une porte ouverte pour peut-être 3 ou 4 minutes et peut-être simplement lui donner 1 ou 2 éléments du kérigme, mais c'est déjà une grâce qu'on puisse le faire. Quand on a nos familles autour de nous, c'est sûr que ça peut prendre un peu plus de temps. Ça, on est bien d'accord. C'est un témoignage qui peut être étalé sur une durée un peu plus longue. Mais vous savez qu'à un moment donné, cette histoire de résurrection, cette histoire de mort de Christ, vous devrez la caser, sinon vous n'avez pas prêché le message de l'évangile. Vous ne pouvez pas limiter le message à Dieu vous aime, vous le savez tous. Donc, ma question c'est comment est-ce qu'on pourrait faire pour qu'on puisse se dynamiser les uns les autres à la sortie de cette semaine à avoir un impact sur nos oikos. Et en fait, au-delà de la réponse T40 où vous venez dans les groupes, la question c'est comment est-ce qu'on pourrait faire, même sans venir à T40, pour avoir un impact et avoir un moyen de se souvenir que nous avons cette mission de commencer par Jérusalem, c'est-à-dire nos proches. Une idée ? Prier et parler. Ce que je vous propose, c'est que on puisse tous faire ce soir le petit exercice qu'on fait au début de T40, et après je laisserai la parole à Alex. On va juste commencer par incliner nos têtes respectueusement, et on va demander au Seigneur de nous montrer qui, dans notre entourage proche, des gens qu'on voit régulièrement et quotidiennement, n'est pas sauvé. Ok ? Certains ont déjà fait l'exercice, mais je voudrais vous inviter quand même à reconsidérer votre liste, voire à l'étoffer si c'est nécessaire. Mais j'aimerais que tous maintenant, on puisse se faire une liste, et ça sera la liste et notre mission pour la fin de cette semaine. Et ce que j'aimerais, c'est que, il y a des mails qui vont partir à la fin de cette semaine, on est à peu près 53 sur la liste d'email. J'aimerais que tous, on puisse avoir une liste de personnes avec un objectif, des personnes de notre UCOS à qui on va parler. Et ceux qui ont déjà fait T40, qu'on puisse réactualiser cette liste. D'accord? Alors, on va prendre maintenant 3 à 4 minutes dans le silence. On va juste demander chacun au Seigneur de nous montrer quelles sont les personnes de notre entourage, de notre UCOS qui ne sont pas sauvées. On va prendre un peu plus, 5-6 minutes. Vous l'écrivez sur un papier devant vous. Si vous n'avez pas de stylo, ouvrez-vous les doigts et écrivez avec votre sang, j'exagère. Si vous n'avez pas de stylo, on va essayer de vous en trouver un. On va essayer simplement de sélectionner les personnes qui sont dans notre entourage, qui soit ne sont pas sauvées, c'est sûr, soit on ne sait pas vraiment où ils en sont dans leur relation avec Dieu. D'accord ? On se prend une petite dizaine de minutes pour ça, même pas 8 minutes, et ensuite on reprendra un temps de prière. Il a mal passé.